Vous écoutez
RMC.
RMC.
La une des grandes gueules du sport.
Koh-Lanta, la légende. Comme depuis 20 ans, à la fin, il n'en restera qu'un.
Tadej Pogačar qui remporte donc à 150 mètres d'un arrivée. Il se retourne encore une fois pour constater l'écart abyssal qui le sépare aujourd'hui de ses concurrents et notamment de Mathieu Van Der Poel.
Ils ont bravé 40 jours de survie, surmonté tous les dangers.
Mats Pedersen.
Il a bien travaillé, vainqueur en 2020 et en 2024. Il remporte son deuxième Gambit Wellgame consécutif.
Les héros vont s'affronter une dernière fois dans la plus mythique des épreuves.
Mathieu Van Der Poel.
Il est trop fort, Mathieu Van Der Poel, et il semble surdominer cette arrivée. Tadej Pogačar derrière Filippo Ganna. Mais c'est Mathieu Van Der Poel, le néerlandais, qui va s'imposer.
Qui sera sacré légende parmi les légendes.
Wout Van Aert.
Michael Matthews est costaud à la lutte avec Van Aert. Van Aert, Van Aert, Van Aert, Van Aert, Van Aert, qui s'impose ici devant Michael Matthews et Pogačar.
L'une des séries préférées, en tout cas, ce duel Pogačar-Van Der Poel qui nous tient en haleine depuis le début de l'année sur les classiques. Une nouvelle occasion de voir ces Avengers du vélo à l'œuvre aujourd'hui lors de cette course. L'Enfer du Nord qui porte très très bien son nom. Et pour parler de cette course, quelqu'un qui est sur place en direct, on trouve Christophe Cessieux. Il pouvait pas lâcher comme ça la place. On le retrouve, notre GG préféré. Salut Christophe.
Salut les gars. Ben oui, moi comme salut Valentin, je suis dans la salut trouée d'Arambert en train de pédaler là, et je pense gagner le vélodrome d'ici demain après-midi.
Autant te dire que si tu étais dans la tranchée d'Arenberg, la voix serait pas aussi nette. À mon avis,
non, mais
je me suis arrêté,
François Pignon. Je me suis arrêté.
Il a eu un petit ravitaillement.
Le moteur dans le vélo fonctionne bien.
Le moteur marche très très bien.
Ouais, oui.
Et en plus, Marc m'a donné quelques petits trucs avant de partir hier, donc je suis nickel.
Nickel, Christophe Cessieux, tant mieux. Tu vas pouvoir participer au débat avec nous pour la première fois en pro. Hein. Tadej Pogačar se présente sur les pavés de Paris-Roubaix avec, donc, on l'a dit, la possibilité de marquer l'histoire. Bernard Hinault, dernier vainqueur du Tour de France à s'être imposé à Roubaix, c'était en 1981. Le dernier vainqueur sortant à avoir remporté l'Enfer du Nord, c'était Eddy Merckx en 1973. Vous avez vu, ça remonte d'où l'événement. Si jamais Tadej Pogačar pouvait s'imposer. Et justement, le Slovène, il est souvent comparé au cannibale Eddy Merckx. Alors, je vous pose cette question, les GG, ce matin. Faut-il souhaiter une victoire de Tadej Pogačar cet après-midi lors de Paris-Roubaix? Oui ou non, Fred Weiss?
Évidemment, oui.
David Douillet?
Oui.
Sarah Pitkowski?
Bah, oui.
Christophe Cessieux?
Bah, oui.
Jérôme Pinault.
Eh ben non.
Ah non, mais tu sais, depuis que je sais qu'il y en a un qui dit non, j'attends de connaître ses arguments.
On a hâte de savoir ça. Juste avant, on va accueillir Maria Azé, qui est également en direct avec Christophe de Roubaix pour suivre cette course. Salut Maria.
Salut François, salut tout le monde.
Alors
salut.
Toi, tu as pu justement les voir de près, hein, ces deux héros, ces deux idoles, Tadej Pogačar, Mathieu Van Der Poel, opposés à nouveau aujourd'hui. C'était donc hier, tu as pu les voir. Est-ce qu'ils ont déjà lancé leur duel lors de cette journée de conférence de presse?
Oui, tout à fait. Évidemment, c'est le duel dont tout le monde parle. Alors peut-être le duel le plus alléchant du sport mondial en ce moment. Un partout sur les monuments pour Pogačar qui s'est imposé sur le Tour des Flandres et Van Der Poel sur Milan-San Remo. Van Der Poel lui tentera d'aller chercher son troisième titre sur Paris-Roubaix et il pense que l'Enfer du Nord va être plus compliqué pour le Slovène.
La Tour de Flandre, c'est un peu plus facile pour lui pour faire la différence dans les côtes. Je pense que tout le monde sait comme il était fort au Tour de France sur l'étape pavée. Donc, ouais, je suis 100% convaincu qu'il peut gagner demain. Donc, ça va être un des favoris.
Voilà, il parle déjà de son concurrent principal, Mathieu Van Der Poel, car les 259 km de Paris-Roubaix sont tout plats. Mais Pogačar l'assure, il est venu pour gagner pour sa première participation à Paris-Roubaix. Le champion du monde slovène est déjà venu s'entraîner plusieurs fois sur les pavés du Nord. Il a notamment battu des records Strava sur trois secteurs, donc il est prêt.
Je commence à aimer les pavés, au moins l'entraînement, mais dimanche c'est une autre histoire. On sait que ce sera dur de se battre pour la victoire. Le plus important, c'est de rester concentré et d'avoir de la chance pour survivre dans cet enfer du Nord.
Côté Côté compteur, Tadej Pogacar a remporté 8 monuments dans sa carrière, 7 pour Mathieu Van Der Poel, et ce duel tient toutes ses promesses et promet une course exceptionnelle cet après-midi.
Merci beaucoup Maria, et tu suivras ça évidemment et toutes les réactions avec toi à l'issue de cette course, et tu reviendras d'ailleurs nous voir Maria à 10h30 puisqu'on parlera avec toi de Pauline Ferrand-Prévot. Elle a déjà eu sa dose d'émotion Maria lors de ce Paris-Roubaix.
Que de champion.
Et oui, exactement. Je rappelle donc la question pour nos GG ce matin. Faut-il souhaiter une victoire de Tadej Pogacar aujourd'hui? Et je vais demander à celui qui est sur place, Christophe Cessieux. Tu as dit oui, Christophe?
Oui, évidemment, parce que c'est quand même le phénomène et la spécialité de ce Paris-Roubaix 2025, c'est de savoir que un vainqueur du Tour s'aligne au départ. Et j'aimerais bien que l'exemple donné par Tadej Pogacar puisse inciter d'autres grands coureurs de Tour à s'aligner dans les années à venir. C'était la tradition avant. Le Paris-Roubaix, tous les coureurs, les grands coureurs des années 50, 60, 70, la disputaient. Eddy Merckx, il n'aurait pas imaginé une seule seconde ne pas disputer Paris-Roubaix. Pour Bernard Hinault, c'était un peu plus compliqué parce qu'il détestait cette course. Il disait c'est une saloperie. Mais enfin, il est quand même venu et il l'a remporté. Et je pense que l'exemple donné par Poggi pourrait inciter les autres à venir. Et puis parce que moi, j'adore l'histoire du cyclisme. Moi, j'ai envie que Poggi aille chatouiller le seigneur et maître de l'histoire du cyclisme. Et pour ça, il lui reste cette course ainsi que Milan-San Remo à aller chercher ce garçon. Même s'il le fait, faut toujours rester sur ses gardes en matière de cyclisme, et ce sera sans doute les arguments de Jérôme tout à l'heure. J'adore sa façon de courir, j'adore sa façon de vivre. Il n'a rien à faire des convenances, de la prudence qui aurait dû l'inciter finalement à ne pas participer à cette course aujourd'hui, comme le faisait Armstrong ou même Merckx. Non, il aurait dû évidemment se concentrer sur le Tour de France, mais tout ça, il n'en a rien à faire. Non, il est là pour s'amuser. Le vélo, pour lui, c'est d'abord du fun. C'est évidemment gagner les courses, mais c'est aussi montrer qu'il est un garçon comme les autres. Et donc, j'ai envie de le voir. J'ai envie de le voir remporter ce Paris-Roubaix, et j'ai envie de le voir s'approcher des 19 monuments remportés par Eddy Merckx, parce que ça va faire peut-être partie de l'histoire dans les années à venir, savoir s'il peut rattraper le seigneur et maître du cyclisme mondial.
Alors Jérôme, on va t'entendre, bien sûr, tu vas pouvoir réagir, t'es le seul à avoir dit non, mais j'imagine que Fred, David, Sarah, vous êtes sur la même ligne que Christophe, c'est pour l'histoire, c'est ça? C'est pour ça que vous avez dit oui, Sarah?
Pour l'histoire, c'est aussi parce que depuis le temps que je participe au GG, on m'a toujours expliqué que dans le vélo, il y avait des profils pour gagner le Tour, il y avait des profils pour gagner des étapes, des courses d'un jour. On m'a expliqué plein de fois, oui, mais lui, il va gagner des étapes sur le Tour de France, mais il ne peut pas gagner le Tour de France. Je me souviens des débats sur Julien Alaphilippe qui avait le maillot jaune, où peut-être naïvement, on se disait, mais pourquoi il pourrait pas gagner le Tour de France? Et on m'expliquait par A plus B qu'il y avait des choses qu'on ne pouvait pas faire sur le vélo. Et donc, le fait d'avoir Pogacar qui gagnerait, ou en tout cas qui aujourd'hui fait figure de favori, au même titre que Mathieu Van Den Poel et d'autres au départ de Paris-Roubaix, ça fait tomber
ces barrières.
Ouais, ces barrières qu'on m'avait expliquées plein de fois, et j'osais mais plus poser des questions.
T'as pas vu le Tour de France d'il y a 4 ans où Van Aert a gagné en haut du Ventoux,
oui.
Au sprint, un contre
oui.
la montre, il a monté
mais les quand je te dis ça, les sur les 4 dernières années,
les
je te dis.
Ça a changé là quand même.
Oui, ça commence à changer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Pogacar qui gagne, si tu veux, quand t'es pas un spécialiste de cyclisme, tu peux t'approprier une star et tu peux le soutenir et peu importe finalement que tu comprennes tous les tenants et les aboutissants d'une course comme le Paris-Roubaix, quoi. Voilà.
Non, mais tu peux t'approprier aussi une course, c'est-à-dire que Pogacar, pour tout le monde, c'est celui qui gagne tout sur le Tour de France, même si c'est pas exactement ça, sur le dernier Tour de France, c'est ce qui s'est passé. Moi, ça me permet de m'approprier justement ce Paris-Roubaix, parce que je me dis, ce coureur,
le duel,
est extraordinaire. Non, le duel, je m'en fous du duel. Moi, Pogacar, il me fait regarder le cyclisme, il me fait apprécier le cyclisme, et je rejoins Christophe. L'histoire. On est en train de voir quelque chose d'extraordinaire. On est en train de voir un coureur magnifique, formidable, extraordinaire, devenir une légende peut-être. Et moi, le fait de vivre à cette époque et de pouvoir dire j'étais là quand Pogacar a gagné Paris-Roubaix, en plus d'avoir en enchaînant le Tour de France, moi je trouve ça extraordinaire. Donc effectivement, je suis qu'un néophyte par rapport à Jérôme Pignot par exemple, mais je représente plus de personnes que
Jérôme Pignot. Mais non, Fred, parce qu'en fait, ce qui va se passer, si Tadej Pogacar gagne Paris-Roubaix aujourd'hui, Il y a des gens comme toi qui vont dire c'est génial, j'ai participé à l'histoire et j'ai.
Alors, j'ai pas vécu participé, quelque chose. J'ai eu la chance de le voir.
Et il y a les 80 autres pourcents qui vont te dire j'arrête de regarder ce sport parce que ce mec est dopé, c'est pas possible de tout gagner.
Mais il y en a marre avec le cyclisme. Arrêtez avec le cyclisme. Mais même que même vous parliez de dopage à chaque fois, c'est insupportable.
Tu sais pourquoi moi je veux pas qu'il gagne? Moi je veux pas qu'il gagne. Pourquoi?
Parce que. Pourquoi? Je sais la suspicion.
Non, et parce que c'est la légende. Et parce qu'on parle aussi énormément aujourd'hui de sensations, d'émotions. L'émotion, on va l'avoir dans le duel. Il faut que Van Der Poel, Pogacar, ça continue.
Et donc, arbitré par d'autres. Peu importe qui passe la ligne d'arrivée.
Si lui gagne, Christophe fait référence à Eddy Merckx. Et là où je ne vous rejoins pas, c'est que si Eddy Merckx faisait partie de ces coureurs des temps d'aujourd'hui, on se ferait chier les gens. Parce que ça, c'est toujours le même qui gagne. Il était surdominateur. Et si aujourd'hui, Tadej Pogacar gagne, c'est Paris-Roubaix.
Mais c'est de sa faute si c'est le meilleur. En fait, je comprends pas ce procès d'attention. C'est-à-dire qu'il est trop, il est meilleur. Il est plus fort que les autres. Mais moi, c'est grave. C'est vraiment pas bien. Arrête de gagner.
Jérôme, il est pas surdominateur sur les classiques encore, Pogacar.
Si aujourd'hui, il fait 60 ans, Milan-San Remo, qui gagne.
Oui, mais ça sera pas le cas. Tu sais bien que ce sera pas le cas. Moi, j'y crois pas. Van Der Poel le bat quand même sur Milan-San Remo. Van Der Poel s'accroche dans le Tour des Flandres. Bon, évidemment.
Sa course à Van Der Poel. Logiquement, Van Der Poel, Van Aert, Pedersen presque c'est plus fort que Pogacar sur ces courses-là et aujourd'hui aussi normalement.
Mais sur Paris-Roubaix normalement aussi. Je pense
c'est
pas
pour ça que
Pogacar
moi je ne veux pas je ne souhaite pas de mal à Pogacar. Je s'il gagne, je veux qu'il y ait un beau duel. Je veux que ce soit
serré.
Voilà,
c'est ça.
Tu as raison quand tu dis que
Merckx à son époque dans les années 70, tout le monde le détestait parce qu'il écrasait tout. Il écrasait ses adversaires. En France, quand il venait sur le Tour, c'était Abba Merckx, les gens lui mettaient des coups de poing dans le foie. Je me rappelle une arrivée au Puy-de-Dôme parce qu'il battait Bernard Thévenet. Il était détesté, mais il était aussi un peu pas détesté, stable, mais il donnait pas le même visage.
Il était moins sympa
que Poggi. Poggi, il est sympa. Poggi, t'as envie de l'aimer, t'as envie de le supporter. Eddy Merckx, c'était pas le cas. Mis à part les Belges, évidemment. Il y a aussi une différence de tempérament. Il y a évidemment le pire sur l'échiquier, c'était Armstrong. Mais bon, Armstrong, il a jamais fait le Paris-Roubaix. Il était détestable. Merckx, c'était entre les deux. Et Pogacar, lui, t'as envie de l'aimer, même s'il gagne tout.
Alors David Douillet.
Non mais moi je trouve que le s'il était tout seul, s'il avait pas de concurrence, je pourrais être d'accord avec toi, Jérôme. Mais ce que tu as cité prévalait pour la semaine dernière autour des Flandres avec Van Aert, avec Van Der Poel, avec Pedersen. Les trois auraient pu sortir du lot. D'ailleurs, le suspense a été tenu jusque dans les 50 derniers bornes. Et puis après, ils ont coincé. J'ai entendu d'ailleurs, est-ce que j'ai rêvé ou pas, mais il me semblait que Van Der Poel était un peu malade ce jour-là, non?
Il avait diminué la semaine précédente.
Un petit rhume dans la semaine, ouais.
Bon, voilà. C'est une chute. Donc, voilà, le rhume, il est peut-être passé. Peut-être qu'il est, plus en forme là. Moi, je trouve que vous enterrez un peu vite Van Aert, qui coinçait pas sur le plat. Il a coincé dans les bosses la semaine dernière, mais je l'ai pas vu coincé. Je l'ai vu même plutôt pas mal, avec quelques attaques, etc. Donc c'est un duel, ouais, sur le papier. Mais moi, je mettrais plutôt un petit trio sur le là aujourd'hui.
Un quatuor, même, parce que Pedersen.
Ouais, avec Pedersen aussi, c'est pas mal aussi. Tu as raison, c'est pas mal. Donc l'ami Poggi, il y a pas une bosse dans Paris-Roubaix, donc il va pas pouvoir faire la différence grâce à ça.
Il y a pas le parcours idéal pour Tadej Pogacar aujourd'hui non plus.
Mais ouais, c'est ça.
Pour revenir sur la question, faut peut-être pas souhaiter qu'il s'impose sur un parcours qui est pas fait pour lui.
Ce que je voulais dire, c'était là pour moi, il y en a pas un qui domine, quoi. Voilà. On sait là aujourd'hui quand ça va démarrer. On peut pas dire ça va être. C'est sûr que c'est lui.
Alors pour Roubaix, non. En plus, c'est ça. C'est Paris-Roubaix. C'est la course avec le plus d'incertitudes. Aujourd'hui, il y a énormément de partants. Il y a deux grands favoris. Si Tadej Pogacar ou Mathieu Van Der Poel s'impose, c'est presque logique. On attend ça. Mais moi, aujourd'hui, mon favori dans ma tête, c'est Jasper Stuyven. Personne ne le connaît parce que Roubaix peut servir aussi un coureur comme ça qui va profiter d'un certain nombre de circonstances. Je sais pas quel temps il fait, Christophe, là-haut. Mais on avance un peu de pluie. Il a plu cette nuit. Ça va changer la chose. Et surtout, c'est qu'on parle tellement de ce duel que on a vu par le passé parfois des duels avec Moussaoud Chmil, et c'est un Servais Snaven qui va gagner. Quand les Français ont gagné Frédéric Guédon, quand le dernier à avoir gagné, il était loin d'être favori. Le Paris-Roubaix, c'est tellement compliqué à gérer et tellement difficile.
Il faut avoir du bol aussi.
Faut tout avoir.
Oui, donc je vais rebondir sur ce que tu viens de dire.
D'accord avec nous, Jérôme.
Je vais rebondir sur ce que tu viens de dire.
Mais ça va dépendre des circonstances. Si, moi, je vous le dis, si, moi, je vois Tadej Pogacar, s'il gagne, il faudra qu'il fasse un numéro tout seul. Il ne peut pas gagner sur le vélodrome au sprint. Il devra lâcher les autres. S'il sort à 50 bornes de l'arrivée, comme un Bonen, comme un Cancellara, comme un coureur spécial, Backstedt avait fait ça. Un mec qui fait 1m80, 80 plombes, qui est spécialiste, s'il nous fait ça aujourd'hui, j'ai grand peur que...
Je pense qu'il peut faire ça, Christophe,
à Vanderpool, sur son terrain.
Ah oui,
franchement.
Ah oui.
Moi, je vais revenir sur ce que tu disais, Jérôme, en disant que finalement, tu ne souhaitais pas tant que ça que Pogacar gagne, parce que tu ne veux pas qu'il y ait des suspicions.
C'est pas par rapport à l'homme, hein.
Oui, qu'il y ait des suspicions qui reviennent. Mais là, tu viens de nous dire, vous venez de nous exposer que Paris-Roubaix, c'est une course particulière où il faut un peu de chance, il y a beaucoup d'incertitudes. Quelle est la part finalement de dopage là-dedans? Puisqu'en fait, c'est tellement stratégique faut une part de chance. J'ai envie de te dire, s'il y a bien une course où on remettrait pas en question le vainqueur, parce qu'il y a plein de phénomènes extérieurs qui peuvent arriver sur cette course. Je me dis, si c'est lui qui doit gagner, évidemment que ce sera lui. Mais j'ai pas le sentiment, sur une course d'un jour, que ça remette en question la préparation ou les suspicions autour de Pogacar. On n'est pas sur trois semaines.
Il y a des spécialistes qui vont te sortir demain, si Pogacar s'impose, qui vont te sortir toute la liste des watts en disant, c'est pas possible. Exactement. Ce mec-là est super.
Déjà, quand il a battu les records, la semaine dernière.
Il était derrière une moto.
Il avait vent portant, il est parti 20 bornes après le premier secteur. Ouais. Et là déjà,
oui, mais ça n'a parce pas que empêché aujourd'hui, tous les détracteurs aujourd'hui, de sortir
mais exactement,
leur
moi les détracteurs, je travaille dans un magasin de cycles toute l'année. Moi les gens, je les crois, je les entends, les spécialistes de vélo évidemment, ils adorent s'arrêter, discuter avec moi. Ils commencent déjà à pu y croire. Et si, je peux te dire que si Pogacar gagne Roubaix et lâche les spécialistes sur les pavés de Paris-Roubaix aujourd'hui, ça va continuer à décrédibiliser tout cela. Et j'en ai pas envie. Moi, j'ai envie que Tadej gagne parce que j'adore ce coureur. Maintenant, j'ai envie qu'il y ait un beau duel. Le voir faire un numéro seul sur les pavés aujourd'hui, serait pas bon pour le cycle.
Alors, mais tu crois que ce serait bon si Van Der Poel fait la même chose? Si Van Der Poel, c'est
plus logique,
Mais non, parce que Van Der Poel, rappelle-toi l'année dernière quand il fait son numéro il y a deux ans, c'était la même chose. On a sorti les watts. Et oui, mais regardez Van Der Poel sur Bordeaux.
Il y en a qui sont un peu obsessionnels. Voilà, obsédé par tout ça. 9h27, je voulais quand même qu'on prenne Philippe parce que il est, je pense, dans le même mood que Jérôme ce matin. Philippe est avec nous, fan de vélo. Salut Philippe.
Oui, bonjour à toute l'équipe et je voudrais commencer mon intervention par une petite citation de mon ami Lili. J'adore la saucisse, mais comme le cyclisme, mais je veux surtout pas savoir comment c'est fait. D'accord.
D'accord, très bien. On oublie.
Le message est passé. Bon, ben, bienvenue chez les bisounours, hein. Christophe Cessieux, que j'admire, hein, au demeurant. Alors là, mais Pogacar qui gagne avec une concurrence phénoménale. Parce que merci, il y avait 6 nations qui faisaient du vélo, hein. Il y avait 5 mecs qui pouvaient gagner par ouvert. Alors Pogacar, il gagne sur tous les terrains, toute l'année, sans fatigue, sans rien, il écrase tout le monde. Et tout le monde trouve ça formidable, non? Pour moi, ça tue le cyclisme. Quand on est amateur de cyclisme, forcément, on a envie de voir des duels, on a envie de voir de la bagarre, on a envie de voir.
Mais t'en as pas vu des duels depuis un mois?
Comment?
Il y en a eu des duels, Philippe, avec Van Der Poel.
La semaine dernière, au Tour des Flandres, il a mis 15 mines dans les monts. Évidemment, les mecs derrière, au bout d'un moment, ils ont explosé.
Et dans Milan-San Remo, il a mis 15 mines, mais il n'a rien les autres.
Milan-San Remo, c'est du 5-6%.
Quand ça t'arrange, il est dominateur, mais quand ça t'arrange il n'est pas aussi dominateur.
Écoute, Christophe, t'es un très bon journaliste, mais là, je pense que tu nous prends pour des jambons, parce que Milan-San Remo, c'est 5-6%, et il y a l'aspiration. Là, dans les pentes à 15%, Van Der Poel, il a explosé en vol. Voilà, c'est tout. Après, j'ai beaucoup plus de sympathie pour Mathieu Van Der Poel que pour Pogacar.
Mathieu Van Der Poel, on a aussi ce problème.
Merci.
J'ai juste envie, si on est amoureux du cyclisme, arrêtons d'alimenter ces gens qui n'y croiront jamais. J'avais cette discussion là en venant. Un mec qui va marquer 20 buts dans le championnat, il va être super, ça va être un génie et on va rien douter de quoi que ce soit. Un mec qui fait du vélo, on a donné ça. Mais faut arrêter de douter maintenant. Mathieu Van Der Poel, parce que c'est le petit-fils de Poulidor, c'est génial. Parce qu'il a des racines françaises, c'est génial. Et arrêtez avec ça. C'est pas parce que un mec à ces origines là, qu'il est sympa, qu'il fait pas comme les autres.
Après, on a le droit de préférer Van Der Poel à Pogacar.
On peut pas dire lui parce qu'il est slovène, il est dopé, et lui parce que c'est le petit-fils de Poupou, il l'est pas. Faut arrêter avec ça.
Quand on avance des choses, il faut effectivement avoir des preuves de ce qu'on avance.
C'est surtout que si les passionnés de cyclisme comprennent quelque chose au sport qu'ils suivent, on sait très bien qu'un Paris-Roubaix et qu'une grande classique, ça sacre souvent le plus fort d'entre eux. Maintenant, Paris-Roubaix a une telle part de suspense à cause de ses pavés, des chutes, des crevaisons, qui peut sourire à quelqu'un d'autre. Mais un homme très fort qui est au-dessus du lot, comme les Pogacar, comme les Van Der Poel, comme l'est aussi Pedersen ou Van Aert, doit gagner Paris-Roubaix. Et il n'y a pas de souci, il n'y a pas de doute à avoir. Ce sont des coureurs qui font ça toute leur vie.
Non, David, on va faire une petite pause. On va continuer, bien sûr, d'en parler. Vous inquiétez pas. Juste pour vous dire que moi, ce que je retiens de ce qu'a dit Philippe, et on le remercie d'être passé, c'est que Christophe Cessieux est un excellent journaliste. Hein, il l'a dit quand même.
Oui, mais prenais mes auditeurs pour des jambons. Alors évidemment, Fred, oui, je le prends pour un gros jambon, mais quand même pas les autres.
Bon, hein. Bravo. C'est un compliment. Fred, t'inquiète pas. Christophe, d'ailleurs, tu vas te transformer en Miss Météo dans un instant, puisque tu vas nous donner la météo à Paris-Roubaix. Ça pourrait avoir un intérêt et un impact, évidemment, sur la course dans un instant. Restez avec nous. On continue de parler de cette classique mythique sur RMC. À tout de suite.
Marc Madiot en tête donc de Paris-Roubaix. On est là entre le carrefour de l'Arbre et Gruson exactement, c'est-à-dire à 12 km de l'arrivée.
RMC jusqu'à midi.
C'est là que Marc Madiot a fait son démarrage et en a profité pour fausser compagnie, notamment à Greg LeMond qui était déjà légèrement décramponné.
Les grandes gueules du sport.
Bravo Marc Madiot, merci pour cette victoire.
C'est le plus beau jour de ma vie, je crois. Il vient de gagner la plus belle course de l'année.
François Pinet.
Et oui, Marc Madiot qui était avec nous hier dans les grandes gueules du sport, qui a remporté deux fois Paris-Roubaix 85-91 et qui sera dans la voiture en tant que directeur sportif tout à l'heure. On parle bien sûr de Paris-Roubaix avec Sarah Pitkowski, Fred Weiss, David Doulet, Jérôme Pinault et Christophe Cessieux qui est en direct de Roubaix. Dans un instant, il y aura le zapping des GG. On ira faire un petit coucou à notre reporter qui est toujours en course là pour le marathon de Paris, Valentin Jamin. On en parlera en direct avec lui et on parlera aussi de rugby avec le choc à venir Toulouse ce soir en Coupe d'Europe. Mais d'abord, donc, la suite de notre débat. Faut-il souhaiter une victoire de Tadej Pogacar aujourd'hui? Beaucoup de réactions évidemment sur l'appli RMC Direct Studio. Et ta réaction, David, juste avant la pause, tu voulais réagir à ce que disait Jérôme, il me semble.
Oui, je voulais réagir. Je voulais juste poser une question, une toute petite question. J'ai le sentiment que ça peut jouer aussi dans les équipes, avec les équipiers, beaucoup plus que sur le Tour des Flandres. J'ai l'impression que le travail des équipiers va être fondamental. Donc c'est celui qui aura les meilleurs équipiers, la meilleure cohésion, le moins d'accidents et le moins de déperditions chez les équipiers, qui pourra aussi aller le plus loin possible. Parce que, et notamment pour Pogacar. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jérôme, c'était une question.
Ouais, non, mais c'est alors t'as tout à fait raison sur le coup. Pogacar, c'est pour ça que je crains David le solo, parce que il a une équipe moins forte que les autres, et surtout il a tout intérêt à ce que il se retrouve très très vite en mano à mano avec les favoris pour une question de placement qu'il a moins l'habitude que les autres, et puis il a pas l'équipe pour l'emmener très loin. Donc on sait qu'à Roubaix la supériorité numérique par équipe est très importante. Donc Pogacar, il a une stratégie, à mon avis, en tête, c'est que sorti de Valère-Sarenberg, sorti de la Trouée, il soit en tête à tête avec tous les favoris. Et à ce moment-là, on crée un scénario où l'un d'entre eux peut faire un long numéro en solo. Ouais. Et celui qui est capable de le faire, c'est lui. C'est ça. C'est ce scénario-là que je crains le plus.
Après, il faudra pas faire comme à travers la Flandre où ils se sont retrouvés à trois Visma et ils se sont fait avoir par le quatrième Larron, qui était Nelson Poles.
Mais donc c'est quand même pas la même course, c'est plus difficile.
Mais il faut savoir utiliser ses équipiers, et je pense que Pogacar va vouloir durcir la course de très loin, justement pour que il y ait plus que les cadors sans leurs équipiers. Mais tu disais tout à l'heure, un garçon comme Stuyven peut très bien rester au contact avec Pedersen et il pourrait se retrouver à deux Lidl face aux autres qui seraient plutôt isolés.
Alors évidemment, le temps va avoir son importance. Christophe, tu es sur place, là, tu es en direct de Roubaix. Le vent, la pluie, le soleil, qu'est-ce qu'il
y a? Alors, la pluie, il n'y en aura pas. La pluie, il n'y en aura pas. Il a plu cette nuit.
Est-ce qu'il y en a eu? Voilà, c'est ça.
Ouais. Voilà, il a plu cette nuit. Moi, j'ai pris la route hier soir. Il y a une grosse averse quand même, quasiment sur toute la route entre Paris et Roubaix. Ça a duré une partie, mais ça s'est pas déversé pendant des heures et des heures, mais il n'empêche que les pavés sur certains secteurs seront mouillés, notamment ceux qui sont un peu à l'ombre. En revanche, ce que l'on redoute le plus aujourd'hui, c'est le vent. Sud-ouest, donc trois quarts arrière pour les coureurs, avec un vent établi à 25 km/h et des rafales qui pourraient atteindre les 45 km/h. Et ça, c'est un élément à prendre en compte pour tous les coureurs, surtout si les pavés sont un peu glissants. Donc les conditions vont être compliquées quand même.
Est-ce que ça peut changer justement quelque chose pour Pogacar, sachant que bon, tout le monde, et on le dit depuis le début, mais peut-être que ceux qui sont pas spécialistes de vélo ont du mal à comprendre pourquoi on dit que c'est pas son terrain, parce qu'il est plus léger que les autres, parce qu'il est moins costaud, parce qu'il n'y a pas de montée, c'est bien ça. Hein.
Voilà. Parce que les autres sont nés sur le pavé. Tout simplement, ses adversaires sont nés sur le pavé. Van Aert, Van Der Poel, même Pedersen qui a passé énormément de temps en Belgique quand il était chez les jeunes, il n'a roulé que sur les pavés. Ils ont l'habitude. Et les deux, Van Der Poel ou Van Aert, sont des crossman. Donc plus les conditions vont être particulières, plus va pleuvoir, clairement, plus le pavé va être humide, plus c'est à l'avantage des deux Belges et du Néerlandais. Mais, on voit que Pogacar, il est capable de tout. Il s'adapte très très vite.
Je sais qu'on disait que Pogacar n'avait jamais couru le Paris-Roubaix, mais en fait, il l'a fait en junior, chez les jeunes. Donc c'est pas.
Et puis
c'est
le pavé,
le pavé
de Roubaix. Alors c'est pas les mêmes secteurs déjà chez les juniors. Il y a le pavé de Roubaix et le. Alors on va pas faire ces spécialistes de l'urbanisme, mais le pavé du nord de la France, Sarah, tu connais.
C'est pas le même que
le vieux Coirmont, quoi. C'est pas du tout le même. Et moi, je retiens une chose, ce qu'a dit Chris. Il a plu cette nuit, donc il y aura certains endroits qui vont être à l'ombre et qui vont être dangereux. Et la plus dangereuse, le plus dangereux des passages que tout le monde redoute. Et il n'y a pas un coureur qui a pas peur ce matin dans le bus. C'est la tranchée de Valère-Saint-Rambin. Pour avoir en bien plus des retours cette semaine, il y a beaucoup de pelouse cette année. Autant te dire que le gazon humide, tu connais. Il faut arrêter de jouer au tennis parce qu'on glisse.
Oui,
mais au vélo, il ne faut pas arrêter. ils vont y aller. Et à 60 à l'heure. Et là, c'est carnage. Et quand tu connais pas, je pense qu'il vaut mieux être dans la godasse de Van Der Poel et de Van Aert que celle de Pogacar dans la tranchée de Valère-Saint-Rambert, parce qu'ils y sont déjà passés, ils connaissent cette expérience-là.
Autre question, parce que alors j'ai lu des pages et des pages. Vous, de Van Aert, il a une, je sais pas comment dire, un petit bouton, une petite manette
qui va
de gonflage de son pneu en fonction, effectivement. Donc sur les pavés, il faut que ça soit moins gonflé.
Tout à fait. La chance qu'il a, et d'ailleurs,
et les autres
Pauline l'avait hier.
Ce système-là.
Seule l'équipe Visma Lease a Bike utilise ça.
Ce qui est un
atout maintenant.
Que ça soit les seuls.
Faut que ça fonctionne très bien. Parce que
Paris-Roubaix est un. C'est un plat.
Et c'est surtout qu'il faut bien gérer le fait que tu peux pas dégonfler complètement et regonfler complètement. C'est une petite réserve dans l'avant, la roue avant et la roue arrière, dans le moyeu. Tu redégages 2, 0,2, 0,3, 0,4, mais ça fait vraiment la diff, surtout quand c'est mouillé.
D'accord,
parce que plus on met de grosses sections, moins on gonfle, plus on est à l'aise. Il y a un très beau papier là-dessus sur l'équipe ce matin. Plus on est à l'aise pour faire comprendre, tu vois, Fred, pour les néophytes, comprendre que plus t'as un pneu large et moins
il a déjà roulé sur le pavé,
c'est facile.
Hein.
Bien sûr.
Et la deuxième des choses, c'est que ce système, est un gros avantage quand il fonctionne, surtout sur le final, puisque si tu arrives à sortir du lot, notamment de cette fameux carrefour de l'arbre, derrière le pavé est quand même moins mauvais. Tu peux remettre une pression très confortable pour la route. Et là, dans le final, un pneu gonflé ou un pneu dégonflé, vous avez tous roulé à vélo, ça t'aide quand t'as une meilleure pression. Donc, c'est un avantage, technologique, à condition que tous les vélos en soient adaptés et qu'il n'ait pas d'autres problèmes, parce que ça n'empêche pas la crevaison.
Alors, juste pour terminer,
Pauline Ferrand-Prévot était équipée de ce système hier quand elle a gagné.
On en reparlera à 10h30 évidemment de Pauline Ferrand-Prévot. Juste un petit tour de table rapide pour votre favori aujourd'hui. Alors Fred, j'ai bien compris, Pogacar, t'as envie évidemment. David.
Ah, moi j'ai un petit fait pour Van Der Poel. Ouais. Et j'adorerais qu'il gagne aussi.
D'accord.
Il n'a pas gagné la semaine dernière, voilà.
Sarah ?
Wout van Aert.
Ah oui, sympa ouais. aussi. Ouais. Christophe, tu nous l'avais dit hier, il me semble. Hein.
J'avais dit Van Der Poel. J'hésite entre Van Der Poel et Pedersen.
Oui, bah t'as qu'à tous les citer, comme ça t'es tranquille.
Alors moi, si j'avais, si j'avais une pièce à mettre, je mettrais Jasper Stuyven. Et mon favori, c'est Tadej Pogacar.
Ah, Pogacar quand même. Ouais.